Jésus enseigne à ses disciples cette prière que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais pardonner n'est pas toujours facile. Cet après-midi, nous verrons le pardon que nous recevons du Seigneur, le pardon que nous accordons aux autres, le pardon que nous nous accordons à nous-mêmes. Nous sommes ensemble durant 25 minutes pour en parler dans l'émission Paroles protestantes.
Paroles protestantes sur RCF Anjou.
Bonjour chers auditeurs, c'est Jean-Pierre Vanini qui vous présente cette émission en compagnie de Daniel et Bernard Delépine et Jean-Didier Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Pour rappel, Jean-Didier, vous êtes responsable d'un groupe de prière à Chemelier et vous avez diverses responsabilités à l'église protestante baptiste à Angers.
Oui, tout à fait.
Daniel, vous êtes membre d'une maison de prière à Angers et vous faites partie de l'équipe de louange.
Oui.
Bernard, vous êtes pasteur de l'église baptiste, appelée aussi communauté chrétienne du Colombier d'Angers. Vous êtes par ailleurs aumônier protestant au CHU et au Sésame.
C'est bien ça.
Lors de notre dernière émission sur la prière qui est diffusée chaque premier dimanche du mois, nous parlions de la confession et du pardon au regard de la fête juive du Yom Kippour. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous rappeler le processus qui amène au pardon? Qui se lance?
Oui, il y a d'abord la prise de conscience du péché ou de la faute, puis la repentance. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe « Je me réjouis de ce que votre tristesse vous a fait changer de comportement ». Il s'agit de la repentance suivie de la confession qui est la demande de pardon au Seigneur et enfin recevoir ce pardon.
Vous pouvez développer un peu ?
L'évangéliste Luc, au chapitre 15 et à partir du verset 11, nous rapporte une parabole de Jésus que l'on nomme parfois celle du fils prodigue. Mais en réalité, cette parabole, trois personnages principaux y sont concernés. On ne peut pas la lire entièrement, mais lorsque le fils cadet a dilapidé la moitié de la fortune de son père, il est fauché. Il trouve un boulot de gardien de pourceaux. Ce n'est pas reluisant, d'ailleurs, dans le contexte juif. Le récit précise qu'il aurait bien voulu manger la nourriture des cochons, mais que personne ne lui en donnait. Et là, le texte précise, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop, et moi ici, je meurs de faim. » C'est la première phase, réfléchir sur soi, sur ce que l'on est en train de vivre. Cette prise de conscience est indispensable. Nous parlions de Jean le Baptiste qui haranguait la foule afin qu'elle prenne conscience du péché. Là, pour le fils de la parabole, c'est au travers de difficultés qu'il réfléchit « Pourquoi j'en suis arrivé là ?»
Et après la prise de conscience?
Après la prise de conscience, le fils décide. Il dit « J'irai vers mon père ». Et il se met en route. Les deux vont de pair. La réflexion pousse à une résolution et la résolution à une action. Jésus nous enseigne par cette parabole qu'il faut se mettre en route pour trouver le changement. Il y a si souvent des décisions qui restent à l'état de projet. Là, le fils de la parabole fait demi-tour. Concrètement, il retourne. Vous savez, c'est un peu la même idée que quand on change de métier. On parle de conversion ou de reconversion. On s'oriente autrement. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, emploie ce même terme en Actes, au chapitre 3. « Changez radicalement, faites demi-tour, afin que vos péchés soient effacés. »
Ok, et après cette décision de faire demi-tour pour retourner à Dieu ?
Ce fils va vers son père et confesse, avec honte, sa faute. C'est assez touchant. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Nous parlions aussi, la fois dernière, du sentiment de culpabilité. C'est bien avec cette culpabilité que le fils vient vers son père. Et là, il confesse son erreur « J'ai péché ».
Mais si on n'a pas de péché, il n'y a pas besoin de se repentir, non?
C'est un peu une provocation, ça, Jean-Pierre. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, nous dit « Il est écrit », et là il reprend un texte de l'Ancien Testament, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous avons tous besoin de repentance et du pardon. » Rappelez-vous cette foule qui voulait lapider une femme prise en flagrant délit d'adultère. pour la sauver, Jésus pose une question à la foule. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La suite du texte précise que tous sont partis la tête basse, en ajoutant avec ironie mais réalisme, depuis les plus âgés aux plus jeunes. C'est que les plus âgés avaient commis plus de péchés que les jeunes. Donc, pour répondre à votre question, tous ont péché et donc tous ont besoin de se repentir.
Mais comment peut-on être sûr que le Seigneur nous a pardonné ?
Ah ben là, les exemples de pardon sont multiples dans la Bible. Ici, dans la parabole du fils qui revient, le père pardonne, se réjouit. Il organise même une fête. Quant à la femme adultère, sauvée par Jésus, il lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Nous avons déjà cité cette affirmation tellement importante de l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 1. « Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. » Et il martèle au chapitre 3 « De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. » Le pardon est une question de foi. Si Dieu affirme que nous sommes pardonnés, alors nous le sommes. Comme le dit l'apôtre Jean, il nous faut croire et avoir confiance en notre Père céleste qui est amour. Lorsque nous acceptons son pardon, il y a un soulagement spirituel et une paix qui s'installe en nous. C'est comme une attestation divine qui fait du bien.
Merci Jean-Didier. Nous disions en préambule que pardonner aux autres, ce n'est pas si simple. Pour l'illustrer, je vous propose d'interpréter un sketch sur le Notre Père avec vous, Daniel.
Ok, il nous vient de la troupe SketchUp Company. Allez, c'est parti. Notre Père qui est aux cieux.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Mais tu m'as appelé.
Non. Non, je t'ai pas appelé. Je prie le Notre Père.
Là, tu l'as encore fait.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Tu m'as appelé. Tu as dit Notre Père. Me voici. À quoi pensais-tu ?
Ben, à rien. Je prie, c'est tout. Et puis ça me fait du bien. Ça me relaxe.
Très bien. Alors continue.
Que ton nom soit sanctifié.
Attends. Que veux-tu dire par cela ?
Par quoi ?
Par dire que ton nom soit sanctifié.
Je voulais dire que je ne sais pas ce que je voulais dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire ?
Mon nom est plus grand que les autres. Mon nom est « Je suis ». Cela ne te dit rien ?
Si, mais j'y avais jamais pensé avant. Oh, bah, et puis tu sais, j'ai pas fait beaucoup d'études, moi.
Continue, veux-tu ?
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Et que fais-tu pour que mon règne vienne ?
Ce que je fais, moi ? Rien du tout, mais je trouve que ce ne serait pas plus mal que tu viennes diriger toute chose ici-bas, comme tu le diriges là-haut. Hein ? Tu regardes la télé des fois, toutes ces horreurs.
Est-ce que je dirige aussi ta vie ?
Oh, bah, tu sais, je vais parfois à l'église le dimanche, surtout à Pâques, à Noël. Enfin, j'y vais, quoi, j'assure.
Es-tu sûr de marcher sur les traces de mon fils ?
Alors, écoute, Seigneur, je suis aussi bonne que toutes ces personnes qui vont à l'église tous les matins.
Comment veux-tu que ma volonté s'accomplisse si ceux qui prient ne commencent pas à l'accomplir ?
Eh bien, je sais que j'ai des problèmes.
Moi aussi, je sais.
Oh, bah oui, tu sais. Alors, tu sais peut-être qu'il y a des choses dont j'aimerais me débarrasser pour pouvoir être cool dans ma tête.
Bien, nous allons pouvoir travailler ensemble alors.
Ah non, attends. Cet après-midi, ça va beaucoup trop loin, cette prière. Et puis, ça me prend beaucoup trop de temps. Je continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Me fais-tu confiance pour cela ?
Oh, bah, oui. Oui.
Continue. Eh bien, continue, veux-tu ?
Je ne veux pas. Je sais ce que tu vas me dire.
Essaie donc, tu verras.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et Marie-France ?
Et voilà, je savais que tu allais me parler d'elle. Mais elle m'a fait beaucoup trop de mal et j'ai juré de me venger.
Et ta prière ?
Oh, c'est juste une question d'habitude, c'est tout.
Eh bien, tu es franche au moins. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas ?
Non, ce n'est pas facile. Mais une fois que je serai vengée, ça ira beaucoup mieux.
Ça n'ira pas mieux, au contraire. Vois déjà combien tu es triste. Moi, je peux changer tout ça.
Ah oui, toi tu peux. Et comment ?
Pardonne à Marie-France comme un jour je t'ai pardonné.
Seigneur, je ne peux pas lui pardonner. Tu comprends ? Je ne peux pas.
J'entends bien. Mais que me demandais-tu dans ta prière alors ?
Ok. Je vais essayer de pardonner. ça va pas être facile. Mais est-ce que tu pourrais aller lui parler à elle aussi? Je sais qu'elle te prie beaucoup et...
Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
C'est ce que je ferai, mais toi, ne fais pas tout pour être tenté.
Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire.
Amen.
Amen.
Ah, j'aime beaucoup ce sketch. Et comme quoi, il faut faire attention à nos paroles et à nos prières.
Avant de poursuivre notre émission sur le pardon, écoutons Sola Gracia du groupe Impact. Reste avec nous, nous revenons dans quelques instants. Suite de notre émission Paroles protestantes sur RCF Anjou, en compagnie de Daniel, de Jean Didier et de Bernard. Nous parlons du pardon reçu par le Seigneur et le pardon que l'on doit accorder à ceux qui nous ont fait du mal. En tant que pasteur, Bernard, vous avez une manière un peu particulière de voir le pardon, je crois. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, les gens pensent à tort que le pardon c'est une notion chrétienne, religieuse. Mais Jésus est bien plus subtil que cela. C'est un vrai psychologue. Lorsqu'il enseigne de pardonner aux autres, il n'est pas en train de dire « considère que ce qu'il t'a été fait, c'est pas grave, efface ». Non, la femme violée, ou l'homme, ne peut oublier. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Non seulement ce n'est pas juste, mais c'est tout simplement impossible. Nous avons accompagné une jeune fille qui a été violée pendant 10 ans par un de ses frères. Comment oublier ? Oublier, non. Mais guérir du traumatisme, oui. Mais pour guérir, ça passe par le pardon. Il faut enrayer la rancune, l'amertume, le vouloir de vengeance. Il faut guérir, sinon c'est l'enfermement, une sorte de prison intérieure dans laquelle on vit continuellement. Je pense à quelqu'un de 70 ans passé, elle est toujours dans sa prison, 60 ans après le traumatisme. Elle pensait que ça irait mieux après le décès de son agresseur, mais rien n'y fait. Hein. Elle coince sur le pardon. Je le disais tout à l'heure, il me semble que lorsque Jésus dit qu'il faut pardonner, il est plus dans un rôle du psychologue que du religieux. Enfin... En tout cas, c'est mon sentiment. Il souhaite faire de nous des personnes libres pas étonnant qu'il dise « Venez-vous, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. »
Oui, ne pas vouloir pardonner, c'est laisser la place à la haine et la rancœur. Cette haine, si nous ne la chassons pas, va grandir et produire en nous un poison qui va progressivement nous détruire. Refusons cette double peine, celle d'avoir été blessé dans notre vie et notre cœur, et celle de l'empoisonnement de la haine et la colère qui en découle.
Oui, mais comment faire pour pardonner lorsque c'est difficile, Jean-Didier ?
Nous disions tout à l'heure qu'il fallait s'appuyer sur Dieu pour qu'il nous aide à faire ce qui nous est impossible. Il nous faut d'abord être d'accord pour pardonner. Ensuite, il faut demander au Saint-Esprit de nous aider dans ce que nous nous sommes incapables de faire seuls. Je me permets de suggérer une prière. Seigneur Jésus, aide-moi à pardonner. Aide-moi à aimer comme tu aimes, comme tu m'aimes, afin que je sois libre. Cette prière, il est bon de la faire jusqu'à ce que nous nous sentions libérés de cette souffrance. Même si ça dure plusieurs semaines ou mois, il faut la faire jusqu'à ce que l'on sente dans notre cœur que nous sommes en paix.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Suite et dernière partie de notre émission Parole protestante sur RCF Anjou. Nous sommes en compagnie de Daniel, Jean-Didier et Bernard et nous parlons du pardon à accorder à ceux qui nous ont fait du mal. Bernard, est-ce que nous pouvons vraiment guérir des traumatismes émotionnels ?
Oui, c'est un oui fort, franc. Oui, nous le pouvons. Lorsque Jésus revient à Nazareth après avoir été tenté dans le désert, il lit le texte d'Ésaïe 61 à la synagogue, notamment « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus vient guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est bien de la souffrance psychologique, émotionnelle dont il parle. Si nous sommes encore comme un vase brisé, Jésus sait recoller les morceaux et le vase que nous sommes peut devenir encore plus beau. Enfin, lorsque je dis ça, c'est parce que j'ai dans la tête la technique du kintsugi. Vous savez, c'est cet art japonais qui consiste à réparer les vases brisés avec de l'or. Avant d'être magnifique, le vase était brisé. Donc, j'affirme, oui, Jésus guérit encore les traumatisés de la vie et il veut faire de très très belles choses dans les personnes que nous sommes, c'est-à-dire des personnes libres et joyeuses. Nous aurons d'ailleurs dans notre église, dans quelques temps, un temps de prière spécifique pour ce type de traumatisme.
C'est réconfortant et encourageant. Si nous réfléchissons un peu plus sur la prière qu'enseigne Jésus, on dirait qu'il y a une condition. Pardonne comme moi aussi je pardonne. Est-ce à dire que nous ne serons pas pardonnés si nous ne pardonnons pas ?
Alors dans une autre parabole, rapportée en Matthieu 18, dite du serviteur impitoyable, il est question d'un serviteur qui doit une fortune à son roi. Le roi ordonne qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants comme esclaves, pour rembourser. Mais devant l'apitoiement de son serviteur, le roi ému lui remet sa dette, une fortune qu'il ne doit plus rembourser. Heureux, le serviteur s'en va et rencontre un collègue qui lui doit quelques euros. Il exige que cette dette lui soit rendue sur le champ. À son tour, l'homme supplie le serviteur d'attendre, mais celui-ci ne veut rien savoir et le fait jeter en prison. Ayant appris cela, le roi fait venir ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. » Il est intéressant de souligner que Jésus enseigne sur ce sujet à la suite d'une question de l'apôtre Pierre. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En réalité, cela veut dire toujours.
Oui, les textes sont nombreux. Dans Marc 11, Jésus nous l'explique bien. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus lui-même a souffert. Il était loin d'être insensible. Il n'a même pas été épargné par la calomnie, le rejet, la trahison. Ça n'a pas toujours été facile avec sa famille, mais il pardonnait, toujours. Il n'y a qu'à voir comment il accueille Pierre après la résurrection. Et puis, il fait ce qu'il a enseigné. Il disait « Pardonnez, aimez vos ennemis ». N'est-ce pas ce qu'il a fait à la croix, priant le Père qu'il pardonne ses bourreaux ? En fait, la notion de pardon est partout dans la Bible. Tout le monde a besoin de recevoir le pardon du Seigneur, et tout le monde a besoin de recevoir le pardon des autres, et tout le monde a besoin de pardonner à l'autre.
Notre émission se termine déjà, mais je crois que vous voulez rajouter quelque chose, Bernard.
Oui, parce que c'est important. On parle de recevoir le pardon du Seigneur et de pardonner aux autres, mais on ne pense pas souvent, ou pas toujours en tout cas, qu'il faut se pardonner à soi-même. Je pense à une jeune fille qui avait du mal à vivre, et je ne comprenais vraiment pas pourquoi, jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle ne s'aimait pas, et que, elle ajoutait, le Seigneur non plus ne peut pas m'aimer. Ah bon, mais qu'est-ce qui te fait penser cela ? Avec du mal et de la honte, elle me disait avoir avorté et que dans son fort intérieur, il y avait quelque chose qui s'était brisé. Elle avait du mal à se regarder dans un miroir. Plus récemment, j'annonçais l'évangile sur la place du ralliement et j'ai discuté avec une femme d'un certain âge. Quand l'Esprit Saint me donne une, ce que j'appelle une parole de connaissance, je lui pose alors la question « Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même ?» Interloquée, elle me demande comment je le sais. Bref, ses deux enfants ont été violés dans la maison familiale sans qu'elle ne s'en rende compte. Et ça a duré. Et elle ne supportait pas l'idée de ne rien avoir vu et s'en voulait au point que elle a fait plusieurs fois des dépressions, était hospitalisée en psychiatrie. C'est donc un sujet très important. Nous devons aider les personnes à se pardonner elles-mêmes. Enfin, et pour conclure, j'ai aussi été amené à demander pardon à la place des autres. Nous n'avons pas le temps de développer le sujet, mais je cite juste deux exemples. Il m'est arrivé plusieurs fois de demander pardon à une femme violée à la place de son agresseur, parce que celui-ci ne le fera jamais. En tant qu'homme, je me suis substitué à lui, dans la même idée, mais sur un tout autre registre. J'ai été aussi amené à demander pardon à des personnes africaines ou arabes pour le racisme qu'elles ont subi. À chaque fois, pour les hommes comme pour les femmes, ce sont des larmes qui coulent.
Merci Bernard. Pour conclure, Jean-Didier, pourriez-vous terminer par une prière ?
J'ai à cœur de lire le début du psaume 32 du roi David, après qu'il ait commis un adultère et un assassinat. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. J'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, Seigneur, tu m'as déchargé de ma faute.
Merci Jean-Didier, merci Daniel et merci Bernard. Notre émission se termine. Et si je devais retenir deux idées fortes de nos échanges, ce serait qu'il faut croire que le Seigneur pardonne nos fautes et qu'il nous faut pardonner aux autres afin de rester libres. Si vous avez une question concernant le contenu de cette émission, vous pouvez l'envoyer à l'adresse mail suivante églisebaptiste.angers@gmail.com. Retrouvez notre émission Parole Protestante en podcast sur RCF Anjou. Bonne prière et à bientôt.